Jason fut réveillé par un ronronnement qui croissait lentement, puis un trait de lumière vive dans ses yeux. À moitié sonné, il consulta sa montre, constata qu'il était 5 heures du matin, puis regarda ses stores éclairés par derrière avec une perplexité accrue. Le soleil ne se levait pas à 5 heures du matin en mars. Puis il comprit. Les projecteurs. Sur le trottoir d'en face, les camionnettes des médias étaient revenues et s'allumaient pour le reportage du matin. Tout le monde filmait une nouvelle intervention depuis les lieux du crime, à savoir son jardin. Il laissa retomber sa tête sur l'oreiller en se demandant s'il y avait eu, pendant ces 3 dernières heures où il avait bel et bien dormi, des révélations dont il faudrait qu'il soit au courant. Il devrait allumer la télé, prendre des nouvelles de sa vie. Il avait toujours eu un sens aigu de l'ironie. Il attendit que celui-ci se manifeste pour jouir de cet instant. Mais il était sous le coup de la fatigue, écartelé entre le désir de protéger sa fille, de retrouver sa femme et d'éviter la prison. Jason tendit ses bras et ses jambes, fit l'inventaire après le passage à tabac de la veille au soir. Il découvrit que ses 4 membres semblaient en état de marche, même si certains le faisaient plus souffrir que d'autres. Il mit ses mains sous sa tête, étudia le plafond de son seul œil valide et essaya de mettre au point un plan pour la journée. Max allait revenir. Le père de Sandra n'avait pas fait le voyage jusque dans le Massachusetts pour rester les bras croisés dans sa chambre d'hôtel. Il allait continuer à exiger de voir Ree, à menacer, d'engager une procédure, de révéler le passé de Jason. Celui-ci n'était même pas certain de ce que Max savait de son ancienne vie. Jason et lui n'avaient jamais vraiment discuté. Jason avait rencontré Sandra dans un bar, et elle avait maintenu autant que possible cette habitude. Seules les filles sages ramènent les garçons chez elles pour les présenter à leur papa, lui avait-elle expliqué le premier soir, manifestement désireuse de poser d'emblée qu'elle n'était pas une fille sage. Jason l'emmenait dans le petit appartement qu'il louait, où il lui préparait un dîner et où il regardait des films, jouait à des jeux de société. Il faisait tout sauf ce à quoi elle se serait manifestement attendue et c'était pour cela qu'elle revenait, soir après soir. Jusqu'au jour où Jason avait remarqué son ventre de plus en plus rond, où il s'était mis à poser des questions. Jusqu'au soir où elle avait fondu en larmes et où la solution à tous leurs problèmes était apparue clairement à Jason. Pour une quelconque raison, Sandy voulait quitter son père. Lui voulait juste s'en aller. Ils étaient donc partis ensemble. Nouvelle ville, nouveau nom, nouveau départ. Jusqu'à ce mercredi soir, Jason aurait dit que ni l'un ni l'autre n'avait jamais nourri de regrets. Et voilà que Max était de retour dans leur vie. Un homme riche, intelligent et qui possédait des relations dans les tribunaux du coin. Il avait les moyens de nuire à Jason. Jason ne pouvait pourtant pas l'autoriser à voir Ree. Il avait promis à Sandy que son père ne toucherait jamais à elle. Il n'allait pas manquer à sa parole maintenant, alors que sa fille avait plus que jamais besoin de lui. Max allait donc jeter de l'huile sur le feu pendant que des policiers continueraient à fliquer tous les déplacements de Jason. Ils étaient en train de charcuter son ordinateur, probablement de fouiller dans ses archives financières, d'interroger son rédacteur en chef, peut-être même de faire un tour dans les bureaux du Boston Daily. Allait-il repérer l'ordinateur qu'il y avait laissé? En tirerait-il la conclusion qui s'imposait? Combien de temps pouvait encore durer ce jeu d'enfer? Jason avait pris des mesures élémentaires quand il était devenu père de famille. Il se livrait à ses activités annexes sous une identité différente, avec un autre compte en banque, une autre carte de crédit, une boîte postale. Les confirmations de paiement et le relevé de la carte bancaire étaient envoyés dans un bureau de poste en banlieue à Lexington. Il s'y rendait une fois par mois pour récupérer la paperasse, la trier, puis déchiqueter ses documents. Mais tous les bons plans présentent au moins un défaut majeur. Dans ce cas précis, l'ordinateur familial contenait suffisamment de preuves accablantes pour l'envoyer derrière les barreaux pour 20 ans ou à vie. Certes, il avait utilisé un logiciel de destruction de fichiers correct, mais tous les sites internet génèrent bien plus de fichiers temporaires qu'un seul programme ne peut en détruire. 3 jours, maximum 4, conclut-il. Ensuite, les criminologues comprendraient qu'il y avait quelque chose d'anormal avec l'ordinateur qu'ils avaient saisi, les flics reviendraient et ils ne plaisanteraient pas. À supposer qu'il n'ait pas déjà retrouvé le corps de Sandy et qu'il ne soit pas en ce moment même devant sa porte, sur le point de l'arrêter. Jason se leva, trop sur les nerfs pour se rendormir. Ses côtes protestèrent lorsqu'il bougea. Il ne voyait rien de l'œil gauche, mais ses blessures lui importaient peu. Rien ne comptait, sauf une chose. Il fallait qu'il s'assure que Rhee était toujours bien au chaud dans sa chambre. Petite silhouette couronnée de boucles, recroquevillée avec un chat orange vif à ses pieds. Il descendit le couloir à pas de loup, tous les sens en alerte. La maison avait la même odeur, semblait la même. Il entr'ouvrit la porte de la chambre de Rhee et découvrit sa fille allongée, droite comme un i dans son lit, cramponnée au haut de sa couette, ses grands yeux bruns tournés vers lui. Elle était réveillée, et il s'aperçut après un instant qu'elle avait pleuré. Ses joues étaient sillonnées de traces humides. « Coucou, ma chérie, » dit-il doucement en entrant dans la chambre. « Tu vas bien ?» Mr. Smith leva les yeux vers lui, bâilla, tendit une longue patte orange. Rhee regarda Jason sans répondre. Il s'assit au bord du lit, d'où il put écarter des mèches brunes emmêlées du front moite de Rhee. « Je veux maman, » dit-elle d'une petite voix. « Je sais. Elle doit revenir à la maison avec toi. Je sais. Pourquoi elle revient pas, papa? Pourquoi ?» Il n'avait pas de réponse. Alors il s'allongea sur le lit à côté de sa fille et la tira dans ses bras. Il lissa ses cheveux pendant qu'elle pleurait, blottie contre son épaule. Il mémorisa l'odeur de sa peau qui sentait le savon, la sensation de sa tête sur son épaule, le bruit de ses petits sanglots fatigués. Rhee pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Alors elle posa ses mains sur celles de Jason, alignant chacun de ses petits doigts courts sur les doigts plus longs, plus larges de Jason. « On va s'en sortir !» murmura Jason à sa fille. Lentement, elle hocha la tête sur son épaule. « Tu aimerais prendre un petit déjeuner ?» Nouveau hochement de tête. « Je t'aime, Rhee. » Préparer le petit déjeuner se révéla plus compliqué que prévu. Il n'y avait plus d'œufs. Même chose pour le pain, l'essentiel des fruits frais. Il ne restait plus beaucoup de lait, mais il se dit qu'il arriverait encore à faire 2 bols de céréales. La boîte de Cheerios étant d'une légèreté suspecte, il opta pour les Rice Krispies. Rhee aimait le jeu des céréales qui parlent et il faisait toujours mine de décoder leur crépitement. « Comment vous voulez que j'achète un poney à ma fille ?»« Ah non, vous voulez que j'achète une corvette ?»« Ah, là je comprends mieux !» Jason réussit à arracher un sourire à Rhee, puis un rire, et il les sentit se détendre tous les deux. Il termina son bol de céréales. Rhee mangea le sien à moitié, puis se mit à créer des motifs flottants sur le lait avec les grains de riz soufflés qui restaient. Cela la distrayait et donnait à Jason le temps de réfléchir. Il avait mal partout. Quand il s'asseyait, quand il marchait, quand il se levait, il se demanda dans quel état étaient les autres. Par ailleurs, ils s'étaient jetés sur lui par derrière. Il ne les avait pas vus venir, donc ils allaient sans doute très bien. Il se ramollissait en vieillissant, se dit-il. D'abord se faire mettre la pâtée par un gosse de 13 ans, et maintenant ça. Merde, il était aussi doué que ça pour la bagarre, il n'allait pas tenir une semaine en prison. Réjouissant, comme pensait du jour. « Papa, qu'est-ce qu'il a, ton visage ?» demanda Rhee lorsqu'il s'éloigna du bar et se leva pour faire la vaisselle. « Je suis tombée. »« Ouille, 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 tu peux le dire. » Il posa la vaisselle dans l'évier, puis ouvrit le réfrigérateur pour voir ce qu'il pourrait manger pour le déjeuner. Plus de lait, il ne restait qu'un pack de 6 canettes du cher Dr Pepper de Sandy, 4 yaourts allégés et de la salade flétrie. Deuxième pensée du jour réjouissante, être l'ennemi public numéro 1 ne vous dispense pas de sortir faire les courses. S'il avait l'intention de prendre un autre repas aujourd'hui, il allait falloir qu'ils aillent au magasin. Il se demanda s'il devait se mettre un bandana sur le visage ou porter un t-shirt sur lequel il y aurait écrit « innocent » devant et « coupable » derrière. Ça pourrait être drôle. « Hey, Rhee, » demanda-t-il négligemment en refermant le réfrigérateur avec un regard vers sa fille. « Ça te dirait d'aller prendre un peu de bon temps au magasin ?» Rhee s'égaya immédiatement. Elle adorait faire les courses. C'était traditionnellement une tâche que père et fille accomplissaient ensemble au moins un après-midi par semaine en attendant le retour de Sandy. Lui s'efforçait de s'en tenir à la liste officielle préparée par son épouse. Rhee essayait de le convaincre de faire un écart pour des achats aussi indispensables que des biscuits fourrés Barbie princesse de l'île merveilleuse ou des beignets recouverts de glaçage au sirop d'érable. En général, il se rasait pour cette sortie, tandis que Rhee préférait revêtir une toilette de bal complète et un diadème en diamant fantasy. Parcourir 20 rayons de nourriture n'avait aucun intérêt si on ne pouvait pas en profiter pour se donner en spectacle. Ce matin-là, elle se rua à l'étage pour se brosser les dents, puis redescendit dans la cuisine vêtue d'une robe à fleurs bleues, agrémentée d'ailes de fée couleur arc-en-ciel et de chaussures à paillettes roses. Elle tendit à Jason un accessoire rose et vaporeux pour ses cheveux en lui demandant une queue de cheval. Il fit de son mieux. Il rédigea la liste de courses, puis fit un effort d'hygiène personnelle. Raser sa barbe découvrit un vilain hématome. Coiffer ses cheveux en arrière souligna son coquard. Aucun doute, il avait une sale gueule. Ou plus précisément, une gueule d'assassin. Troisième pensée du jour réjouissante. Il renonça aux soins de beauté et descendit au rez-de-chaussée où lui l'attendait avec impatience devant la porte, un sac à main jonquille au bras. « Tu te souviens des journalistes ?» lui demanda-t-il. « Les gens avec des caméras et des micros sur le trottoir d'en face. » Lui hocha la tête d'un air solennel. « Eh bien, ils sont encore là, chérie. » Et quand on ouvrira la porte, ils vont sans doute se mettre à crier tout un tas de questions et prendre des photos. Ils essaient juste de faire leur travail, d'accord? Ils vont être un peu comme des fous, alors toi et moi, on va marcher tranquillement jusqu'à notre voiture pour aller au magasin, d'accord? D'accord, papa. Je les ai vus quand je suis remontée, c'est pour ça que j'ai mis mes ailes de fée. Comme ça, s'ils crient trop, je pourrais m'envoler au-dessus d'eux. Tu es drôlement maligne, dit-il. Puis, parce qu'il était inutile d'attendre, il ouvrit la porte. Les cris fusèrent dès que le bout de sa chaussure se profila. « Jason, Jason, des nouvelles de Sandy ? Parlerez-vous à la police aujourd'hui ? Quand pouvons-nous espérer un point presse officiel ?» Il fit sortir Ri et la garda près de lui pendant qu'il tirait la porte derrière eux, fermée à clé. Ses mains tremblaient. Il s'efforça d'agir avec lenteur et mesure. Ne pas se précipiter, ne pas se presser comme un coupable. Un mari éploré qui emmenait sa petite fille acheter le lait et le pain qui leur faisait cruellement défaut. Participerez-vous aux recherches, monsieur Jones? Combien de volontaires se sont présentés pour retrouver Sandy? Elles sont magnifiques tes ailes, ma belle, tu es un ange! Ce commentaire retint l'attention de Jason qui leva vivement les yeux. Il était résigné à être apostrophé, mais il ne voulait pas que cette bande de vautours s'en prenne à lui. Papa, murmura sa fille à côté de lui, et lorsqu'il baissa les yeux, il eut l'anxiété sur son visage. « On va à la voiture et ensuite au magasin, » répéta-t-il posément. « Tout va bien, lui. Ce sont eux qui se comportent mal, pas nous. » Elle prit sa main et resta collée contre ses jambes pendant qu'il descendait le perron et traversait la pelouse vers la voiture garée dans l'allée. Il comptait 6 camionnettes aujourd'hui, contre 4 seulement la veille. À cette distance, il ne distinguait pas les indicatifs des stations. Il faudrait qu'il vérifie plus tard pour savoir si l'affaire était relayée par les médias nationaux. « Qu'est-il arrivé à votre visage, monsieur Jones? Ce sont les policiers qui vous ont fait un œil au beurre noir? Vous vous êtes battu ?» Il continua à les faire avancer dans le jardin, lui et lui, lentement, régulièrement, vers la Volvo. Puis il sortit ses clés et les portières se déverrouillèrent avec un déclic. « Brutalité policière », se dit-il distraitement lorsque d'autres questions sur son visage arrivèrent et que ses côtes protestèrent parce qu'il ouvrait la lourde portière. Puis, lui fut dans la voiture, la porte arrière fermée, et il fut dans la voiture, la porte conducteur fermée. Il fit démarrer le moteur et, immédiatement, les questions stridentes des journalistes s'évanouirent. « Bien joué », dit-il à lui. « Je n'aime pas les journalistes, je sais. » La prochaine fois, moi aussi, je prendrai des ailes de fée. Au magasin, il craqua, ne trouva pas en lui la force d'âme nécessaire à un parent pour refuser à sa fille traumatisée des Oreos, des biscuits fourrés, des sachets de cookies au chocolat tout juste sortis de la boulangerie. Lui se rendit très vite compte de sa faiblesse, et à la fin de leur expédition, ils avaient un caddie à moitié rempli de cochonneries. Il se dit qu'il avait réussi à acheter du lait, du pain, des pâtes et des fruits, mais à dire vrai, le cœur n'y était pas. Il trompait le temps avec sa fille, prêt à tout pour leur offrir un moment de normalité dans un monde qui avait sombré dans la folie. Sandy avait disparu, Max était revenu, la police allait continuer à poser des questions, il avait été un imbécile de se servir de l'ordinateur familial. Jason ne voulait pas de cette vie. Il voulait revenir en arrière de 60 heures, peut-être 70, et dire ce qu'il aurait dû dire, faire ce qu'il aurait dû faire pour que tout ça n'arrive jamais. Il aurait même été prêt à effacer les vacances de février. La femme qui tenait la caisse sourit en découvrant l'élégance de lui, puis elle leva les yeux vers Jason et resta interloquée. Il haussa les épaules avec embarras en suivant le regard de la caissière vers le présentoir à journaux, où il découvrit sa propre photo en noir et blanc à la une du Boston Daily. Le gentil reporter avait-il une face cachée ? Interrogeait le gros titre. Ils avaient repris la photo de sa carte de presse. Une photo recadrée au plus près, à peine mieux qu'une photo d'identité judiciaire. Il avait l'air morne, voire vaguement menaçant, les yeux juste au-dessus du pli de la page. « C'est toi, papa ?» s'exclama Harry. Elle gambada vers le journal et l'examina de plus près. D'autres clients avaient remarqué la scène à présent et regardaient cette mignonne petite fille qui observait la photo inquiétante d'un adulte. « Pourquoi tu es dans le journal ?»« C'est le journal pour lequel je travaille. » répondit-il sur un ton dégagé en regrettant qu'ils aient autant de courses et qu'ils ne puissent pas sortir en quatrième vitesse du magasin. « Qu'est-ce que ça dit ? Que je suis gentil. » La caissière ouvrit des yeux exorbités. Il la fusilla du regard sans plus se préoccuper de savoir s'il avait l'air menaçant ou non. C'était sa fille, bon sang. « On devrait en ramener un, » dit Harry. « Maman voudra le voir. » Elle prit le journal dans le présentoir et le lança sur le tapis roulant. Il remarqua la signature « Greg Barr ». Son patron et rédacteur en chef. Il ne douta plus alors des citations qui figureraient dans l'article, à savoir à peu près tout ce qu'il avait dit la veille au téléphone. Il prit son portefeuille dans sa poche arrière et l'ouvrit avant que la colère lui fasse perdre ses moyens. Payer, monter en voiture, payer, monter en voiture. Rentrer à la maison pour y être de nouveau harcelé. Il sortit sa carte de crédit, l'attendit à la caissière, dont les doigts tremblaient si fort qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois pour la saisir. Avait-elle à ce point peur de lui ? Était-elle certaine d'accomplir une transaction avec un psychopathe qui avait, selon toute probabilité, étranglé sa femme avant de la découper en morceaux pour l'acheter dans le port ? L'absurdité de la chose lui donna envie de rire. Mais son rire n'aurait pas été joli à entendre. Trop glaçant, trop amer. Sa vie était partie en vrille et il ne savait pas comment rétablir la situation. « Est-ce que je pourrais avoir des biscuits dans la voiture ?» demanda Harry. « Dis oui, dis oui, dis oui !» La femme lui rendit enfin la carte avec son ticket de caisse. « Oui, 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 » murmura-t-il en signant le bout de papier et en rempochant sa carte de crédit, pressé de se sauver. « Papa, je t'adore !» s'écria Harry triomphalement. Il espéra que tout le magasin avait entendu ça.